Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
Bonsoir, ce serait une première en 8 ans si l'OPEP arrivait à limiter sa production pour tenter de faire remonter les cours d'un pétrole qui affiche des niveaux plus ou moins bas quand même depuis 2014. Oui, mais sauf que les négociations qui se profilent à Vienne pour la réunion de demain semblent mal parties. Il y a des jalousies entre les Saoudiens et les Iraniens. Il y a des pays faibles, affaiblis par la guerre, notamment l'Irak, la Libye. Et puis il y a ce grand absent, ce géant mondial qu'est la Russie, et qui se fait prier, vous savez, la Russie qui n'est pas membre de l'OPEP. Alors l'OPEP, justement, eh bien, a-t-elle toujours la main? Que pèse encore l'OPEP? Est-ce que l'OPEP a toujours la main? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Les meilleurs comme tous les soirs, voici Olivier Appert qui nous accompagne, membre de l'Académie des technologies, conseiller du centre énergie de l'IFRI. Avec nous Charles Thiemelet, il est associé fondateur de Damalex, c'est un trader pétrolier spécialisé sur l'Afrique. Mathieu Pecheberti, grand reporter à la rédaction de BFM Business. Et puis Antoine Sfer, le directeur des Cahiers de l'Orient. Alors on va voir justement eh bien les enjeux de la réunion de demain, voir si c'est aussi mal parti que ça. Simplement, Olivier Appert, juste de quoi parle-t-on? Le niveau des cours aujourd'hui, à quoi il ressemble au moment où on se parle, fin novembre 2016?
Les cours aujourd'hui sont revenus à un niveau de l'ordre de 45 dollars par baril, après avoir connu une certaine flambée, ou tout du moins une certaine augmentation, à la suite de la réunion d'Alger qui s'est tenue fin septembre, il y a juste 2 mois, où les pays de l'OPEP avaient décidé le principe d'une réduction de leur production. Le diable est dans le détail, et il s'agit demain de préciser justement la répartition de cette réduction, d'où l'importance de la réunion demain. Après la réunion d'Alger, les prix avaient monté, et puis il y a eu un certain désenchantement des marchés qui n'ont pas cru qu'il y aurait une décision, et donc les prix ont baissé.
Oui, alors justement, Charles Thiemelet, quel est l'état de l'offre et de la demande, là aussi, pour planter le décor, avant qu'on voit justement ce qui va se passer demain à Vienne?
Alors justement, c'est un point essentiel. Je pense que il est important de parler, de comprendre ce que vont faire les pays membres de l'OPEP. Mais une bonne partie de ce qui va se passer dépend de pays qui sont justement non membres. Et tout est là. Au niveau de la demande, justement, elle a évolué vers une consommation qui était traditionnellement côté ouest, occidental, vers l'Asie aujourd'hui, qui sont les plus gros consommateurs et qui, eux, attendent de voir ce qui va se passer demain pour prendre des décisions en ce qui concerne leurs achats. Et on a vu récemment, avec les prix, comme disait M. Sfer, à des niveaux intéressants.
M. Appert, pardon.
À des niveaux bas, on a vu les pays asiatiques augmenter leurs stocks. Et ils ont communiqué de façon très opportunistique en disant, si jamais il y a une forte remontée des cours, on va moins consommer, on va moins acheter chez les pays de l'OPEP. Et c'est une grande question, et l'Arabie Saoudite, qui est premier concerné, est très intéressée à justement maintenir, à faire augmenter les prix, mais à les maintenir en dessous d'un certain niveau pour ne pas perdre ses parts de marché.
On va décrypter dans un instant la position saoudienne, toujours bien mystérieux ce pays. Mathieu Pecheberti, il y a toujours un déséquilibre persistant entre l'offre et la demande? Ça s'inscrit là depuis 2 ans, ça se poursuit.
Oui, clairement, il y a d'abord il y a eu un léger recul quand même de la demande mondiale, et puis surtout il y a eu une augmentation assez nette de l'offre, évidemment venant des États-Unis, parce que les Américains, notamment avec les huiles de schiste, donc le pétrole de schiste, sont en train de devenir ou deviendront dans les prochaines années le premier producteur mondial. Et au-delà des écarts, effectivement, on voit bien que si on veut répondre de manière un petit peu rapide à la question de l'émission « L'OPEP a-t-elle encore la main ?», la réponse est non, et ça vient d'être dit, puisque l'organisation quelque part qui a orchestré, en tout cas, comme on appelle le cartel, hein, donc c'est pas pour rien, les marchés pétroliers depuis très longtemps. Aujourd'hui, elle a encore énormément de pouvoir, bien entendu, mais la Russie, effectivement, qui est en dehors, est un des acteurs majeurs, et il n'y aura pas d'accord demain si la Russie n'est pas sur la même ligne que les pays de l'OPEP.
Alors, on va voir justement maintenant eh bien, les différents protagonistes. Hein. Bien sûr, on va parler des pays membres de l'OPEP. Il y en a 14, c'est le tiers de la production mondiale. Et puis les non-membres de l'OPEP, avec notamment eh bien, le non-invité. Enfin, on verra s'il y va ou pas, là. Si elle y va ou pas, la Russie, vous nous le direz. Premier producteur mondial. Oui, la réunion d'Alger, quand même. Vous nous le disiez, Olivier Appert, réunion informelle, donc, où les ministres de l'OPEP ont décidé donc de ramener leur production entre 32,5 et 33 millions de barils jour, hein, c'est ça. Sauf que c'est mal parti. Qu'est-ce qui se passe justement depuis des mois? Les esprits un petit peu.
C'est pas la première fois que les pays de l'OPEP se réunissent ou essaient de se concerter pour réduire la production, ou tout le moins la stabiliser. Il y avait eu une première tentative au mois de février avec la Russie, le Venezuela, le Qatar et l'Arabie Saoudite, qui avait été bloqué le lendemain par l'Iran, qui avait dit « moi, de toute façon, je ne veux pas en entendre parler ». Il y avait une deuxième tentative au mois d'avril qui est aussi couronnée d'un échec, si j'ose dire, et Alger, de façon très surprenante, alors que personne n'envisageait un accord, effectivement, les pays de l'OPEP se sont mis d'accord, c'est un accord de principe. Là, maintenant,
informel, hein, un accord de principe, et puis maintenant reste à concrétiser, mais seulement, voilà, il y a des blocages. Antoine Sfer, les Cahiers de l'Orient.
Je crois que, contrairement à ce qu'on dit, l'OPEP a toujours, d'une certaine manière, la main, dans la mesure où la géopolitique s'en mêle. La Russie, aujourd'hui, a une certaine influence. Elle n'est pas tout à fait certaine, d'ailleurs, mais ce n'est pas une influence certaine, mais une certaine influence sur l'Iran, dans sa coalition, à la fois au Proche-Orient, en Syrie, en Méditerranée orientale en général. L'Arabie saoudite, contrairement à ce qu'on pense, a une véritable vision. Nous avons tous cru que le jeune prince héritier, le numéro 2...
Mohamed Ben Salman,
donc le fils du roi, était un jeune fougueux et qui faisait n'importe quoi. Pas du tout. Je me suis permis de relire ses discours de février 2015 à juillet 2016. Il a une vraie vision et un recentrage. Bien entendu, là je rejoins Olivier Appert, l'épouvantail reste l'Iran. Et l'Arabie se sent, en quelque sorte, encerclée depuis la guerre du Yémen. Donc, n'ayant pas pu faire tomber le régime syrien, d'ailleurs, ils s'en sont lavé les mains, on l'a vu avec, tout d'un coup, le miracle libanais et l'élection de Michel Aoun
comme président de la République.
Ce qui n'aurait pas pu se faire si jamais l'Arabie saoudite avait maintenu sa position. Il y a un changement au sein de du gouvernement saoudien aujourd'hui, un véritable changement pour essayer non pas de faire flamber les cours, mais de les augmenter un peu, dans la mesure où aujourd'hui, pour la première fois, l'Arabie saoudite a été obligée d'emprunter sur le marché mondial. Et ça, c'est impensable, dans la mesure également où l'Arabie saoudite, maintenant, se tourne vers ses nationaux pour les faire payer une partie d'électricité, une partie de la...
Fin de l'État-providence, en quelque sorte, cause, justement, de la chute de ces cours du pétrole.
C'est plutôt pas à cause, c'est plutôt un prétexte, la chute du pétrole. L'Arabie saoudite, aujourd'hui, se sent encerclée. Cela dit, n'oubliez pas que Mohamed Ben Salman a été en Russie. Que Mohamed Ben Salman a été quasiment dans tous les pays européens, bien entendu, et à Alger, pour précisément essayer d'avoir une sorte de véritable ligne qu'ils respecteront demain à l'OPEP. Néanmoins, il ne faut pas oublier aussi que la qualité du pétrole saoudien, koweïtien et tout, reste importante pour les Occidentaux et les industries occidentales. Voilà.
Ouais, impossible de s'en passer, enfin en tout cas difficile de le contourner. L'Arabie Saoudite, Olivier Appert, dans un premier temps, l'Arabie Saoudite bon, semblait juger impératif qu'un consensus donc, soit trouvé suite à l'accord d'Alger fin septembre, il y a deux mois. Et puis ce week-end, il y a eu un revirement. Que disent les Saoudiens ? Une baisse de l'offre n'est pas obligatoire, les prix du pétrole vont se stabiliser, même sans intervention du cartel. Pourquoi ce revirement soudain, là, depuis trois jours ?
C'est peut-être de la tactique pour faire pression sur les autres membres de l'OPEP, car je pense que pour l'Arabie Saoudite, il y a un scénario qu'ils veulent absolument éviter, c'est le scénario du contre-choc pétrolier en 85-86, où l'Arabie Saoudite a supporté toute seule la réduction de l'offre. La production est passée de 10 millions de barils jour à 3 millions de barils jour entre 85 et 86, et c'était totalement insupportable. Et donc, clairement, ils ne veulent pas recommencer et être les seuls à assurer les efforts. Et ils souhaitent en particulier que le premier producteur mondial de pétrole aujourd'hui, c'est la Russie, fasse quelque chose, et ça, c'est pas gagné.
C'est pas gagné, on verra ça, on le rappelle, hein, un petit peu les ordres de grandeur, hein, parmi les trois premiers pays producteurs de l'OPEP, hein. Il y a l'Arabie Saoudite avec un petit peu plus de 10 millions de barils jour, suivi de l'Irak, suivi de l'Iran, et puis on a donc évidemment hors OPEP, hein, le numéro mondial qui est la Russie avec désormais depuis cet été un petit peu plus de 11 millions de barils jour. Quand on trade comme ça, quand on est sur les marchés pétroliers comme vous, Charles Thiemele, est-ce qu'on comprend à quoi joue l'Arabie Saoudite ? C'est quoi la position exacte ? Est-ce qu'il joue un petit peu avec le feu ou pas ?
Non, pas vraiment justement, et c'est très important de le rappeler, c'est qu'au-delà du débat, parce que tout le monde se concentre sur le prix. Mais le prix, c'est l'indicateur facile qu'on voit. Mais derrière le prix, il y a aussi une bataille de part de marché.
La part de marché, voilà.
Et je pense que c'est très important de rappeler que l'Arabie Saoudite joue officiellement, parce que c'est le souci premier des membres de l'OPEP sur le prix, mais en sous-jacent à une bataille pour maintenir ses parts de marché. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a de plus en plus de pétrole disponible, entre guillemets, notamment les Américains, si le prix remonte au-delà d'un certain niveau, et c'est leur crainte, les Américains peuvent ramener des volumes sur le marché, et ça fait baisser les parts de marché de l'Arabie Saoudite. Et sur le long terme, on parlait de vision tout à l'heure, c'est très mauvais pour eux. Donc ils souhaitent maintenir une fourchette qui leur permet à la fois de satisfaire les autres membres de l'OPEP, mais également de maintenir leur part de marché sur le marché mondial, parce que ça, c'est leur prééminence, on rappelait la géopolitique, c'est très important pour eux, et eux, ils ont le loisir et la capacité d'attendre et d'avoir une vision à long terme, parce qu'ils ont beaucoup de réserves, ce que d'autres pays n'ont pas.
C'est Antoine Serre et Mathieu Pechberti. Antoine.
L'Arabie Saoudite a voulu baisser pour montrer que le gaz de schiste aux États-Unis, comme le rappelait justement Mathieu, et le pétrole de l'Alaska pouvaient être produits et vendus et exportés et à des prix concurrentiels. Et là, en faisant baisser le prix, en voulant faire baisser le prix, on voulait punir l'Iran,
tuer
l'œuf américain, exactement, avec la poule si possible. Mais ça n'a pas marché. C'est l'arroseur arrosé. Aujourd'hui, ils se retrouvent eux-mêmes, pour la première fois de l'histoire du royaume, quand même, à la fois emprunteurs sur le marché mondial, à la fois obligés de revoir tout leur programme de séoudisation de l'emploi, tout le programme, précisément, de l'État-providence. Ça n'existe plus.
On va y revenir, justement. Je donne un chiffre. La contribution du pétrole au revenu du royaume, elle a baissé, c'était l'an dernier, j'ai les chiffres de 2015, à 73% contre 90% par an en moyenne dans les 10 dernières années. Mathieu Pechberti, grand reporter à BFM.
On voit bien que, avec ce qui vient d'être dit, qu'on est passé quand même d'un monde où effectivement la géopolitique était plus qu'essentielle, totalement le driver de ce marché, qui n'était en fait pas réellement un marché, mais effectivement un cartel où l'Arabie Saoudite était maître. A tout de même, et évidemment ça reste encore aujourd'hui, le rôle de l'Arabie Saoudite reste déterminant, mais où le marché, comme un véritable marché économique, joue. Effectivement, les Américains défendent aussi leur part de marché, et il y a ce jeu entre ces deux nations très puissantes dans le marché pétrolier aujourd'hui. On voit d'ailleurs aux États-Unis depuis les tout récents mois, que les producteurs américains de pétrole de schiste se sont mis à relancer la production, voyant que les cours augmentaient avec cette petite augmentation au-delà de $50. Ils ont aussi beaucoup baissé leurs coûts, ce qui les rend beaucoup plus rentables si les cours venaient de nouveau à baisser. Et donc on voit bien que même s'il y a un accord demain, on conservera un monde où le marché pétrolier va être très concurrentiel et où chacun va avoir beaucoup, enfin, des parts de marché à défendre et où en tout cas, dans les prochaines années qui arrivent, personne n'a le boule de cristal, mais les prix du pétrole ne remonteront pas à des niveaux extrêmement élevés parce qu'on conservera beaucoup d'offres sur le marché.
Olivier Appert.
Oui, je voulais citer une phrase de Al-Naimi, qui était le ministre du pétrole saoudien en 2014, lors de la réunion de novembre, où l'OPEP a décidé de ne pas réduire sa production, et donc les prix se sont effondrés. Et il disait, si l'OPEP baisse sa production, en fait, si c'est l'Arabie Saoudite qui baisse sa production, à ce moment-là, les prix vont monter et ce sont les, alors il citait les Brésiliens, les Russes et les Américains, les pétroles de schiste qui en profiteront pour prendre notre part de marché. Donc c'était ça, c'était vraiment une défense de la part de marché qui est un enjeu quand même très important. Ce que je crois les Al-Naimi et les Saoudiens n'avaient pas anticipé, c'est la résilience des producteurs américains des pétroles de schiste qui ont connu, on considérait il y a 5 ans que à 80-90 dollars par baril, la production de pétrole de schiste aux États-Unis allait s'arrêter. Aujourd'hui, la production a baissé un petit peu, mais à 30 dollars par baril, une part significative de la production de pétrole de schiste aux États-Unis reste toujours rentable. Et en fait, ce que l'on constate, c'est un changement de paradigme sur le fonctionnement du marché pétrolier.
On a parlé de l'Arabie Saoudite, hein, quand même, qui apparemment freine des quatre fers. Parlons aussi de l'Iran, le frère ennemi, justement, troisième producteur de pétrole au sein du cartel de l'OPEP, hein, qui pour l'instant, lui, n'est enclin qu'à accepter un gel de sa production. Il ne veut pas la baisser. En effet, quelqu'un peut-il m'expliquer quel serait l'intérêt de l'Iran, justement, qui subit depuis des années des rétorsions commerciales, qui est revenu sur le marché pétrolier? Pourquoi l'Iran, justement, accepterait de baisser sa production? Antoine Sfer.
Tout d'abord, il n'est pas tout à fait revenu sur le marché, puisque l'embargo aujourd'hui est toujours un peu dur pour les. Mais comme vous l'avez dit,
il y a quoi? Il y a 2 600 000 barils jour à peu près. Olivier Appert, juste et Jordan.
L'Iran avait une production en juillet 2015, lorsque l'embargo nucléaire a été terminé, de 3 millions de barils jour, et ils sont remontés aujourd'hui à un niveau de 3,7 millions de barils jour, et ils se fixent un objectif de 4 ou 4,1 millions de barils jour, qui était le niveau de leur quota du temps où les quotas existaient.
Antoine Sfer, les quais de l'Orient.
Ces 30 ans d'embargo, ils ont appris à être autarciques et à avoir de nouveaux clients autres que les Occidentaux. Les Asiatiques, vous en avez parlé très justement, mais également d'autres pays qui n'hésitent pas à acheter du pétrole iranien aujourd'hui. Le pétrole iranien est intéressé aussi par le pétrole irakien. Il y a ce fameux trafic du côté de Bassora et de Oum Qasr au sud du sud de l'Irak, tout à fait.
C'est le port de l'Irak, quoi.
L'embouchure sur le Golfe. Et il est vrai qu'aujourd'hui, l'Iran a remporté une victoire stratégique, celle de contrôler quasiment le trafic dans le Golfe Persique, qu'on le veuille ou non. C'est une réalité. Donc l'Iran, aujourd'hui, a tout intérêt à gérer son pétrole sur le plan géopolitique et non pas sur le plan économique seulement. C'est là où je rejoins ce que disait Mathieu
Pechbarty.
Voilà, parce que aujourd'hui l'Iran a bâti son incontournabilité dans la région. C'est devenu la troisième puissance régionale de la région, qu'on le veuille ou non, avec la Turquie, Israël. Aucun pays arabe, si vous remarquez, et Israël et l'Iran. L'Iran a bâti un arc non pas chiite, ils ont instrumentalisé le chiisme, ils ont bâti un arc perse. Et pour la première fois, ils se retrouvent puissance méditerranéenne, avec Téhéran, Bagdad, Damas, et le port de Tyr, tenu
au Liban,
par le Hezbollah libanais. Donc, l'Iran ne veut surtout pas que l'édifice bâti depuis 79 et 80 en particulier s'effondre. Donc ils sont très prudents là-dessus. Mais ils ont intérêt aussi à ne pas faire d'ennemis ils en ont assez avec l'Arabie Saoudite.
Voilà. Donc juste, ouais. Et alors, juste un mot aussi quand même, on a parlé de l'Iran, on a parlé de l'Arabie Saoudite, situation quand même précaire de certains producteurs en guerre, on a cité l'Irak, hein, deuxième producteur au sein de l'OPEP, et puis la Libye qui produit actuellement 600 000 barils par jour, c'est contre 1 600 000 du temps de Kadhafi. Hein. Oui, tiens, bah justement, allez-y, Charles Thiemele, le représentant du continent africain non, ici, associé chez Damalex.
On retrouve pour la Libye un peu le même souci que l'Iran, c'est que ce sont des pays post-conflit ou post- et qui souhaitent retrouver les niveaux d'antan avant d'entendre parler de réduction. Et donc, dans l'accord dont il est question, on souhaite ne pas mettre de contraintes sur la Libye, parce que eux, leur argument, c'est de dire, ben, laissez-nous au moins retrouver notre niveau de production, et à ce moment-là, on pourra pondérer, sachant que les niveaux de production actuels de pays comme la Libye n'ont pas une influence énorme sur les 33 millions de barils que produisent.
D'autant plus que le colonel Haftar, lui a réussi quand même à mettre la main sur les champs pétroliers.
C'est l'un des. Alors c'est un ancien officier de Kadhafi qui est à la tête maintenant de
l'armée
territoire, hein.
De l'Est, de Tobrouk, reconnu par la communauté internationale, mais surtout appuyé à la fois par les Émirats arabes unis et par l'Égypte. La fameuse coalition égypto-émirati aujourd'hui est devenue une des coalitions les plus importantes de cet espace arabe.
Mathieu Pechberti.
On voit que la réponse qui va être apportée demain, c'est est-ce qu'il existe quelque part un nouveau cartel au-delà de l'OPEP d'aujourd'hui? Oui. C'est-à-dire que est-ce qu'on va réussir à trouver cette quadrature impossible du cercle entre des petits pays, ce que vous venez de dire, qui veulent remonter leur production pour retrouver les niveaux d'il y a quelques années, des pays quand même comme la Russie qui sont de grands pays producteurs et l'Iran qui vise à en faire partie, qui souhaitent en tout cas maintenir leur production. Et donc évidemment, là encore une fois, l'Arabie Saoudite, on voit bien que la pression est mise sur elle. Même s'il y a un accord, bon, la question que je me pose pour la suite, c'est est-ce que cet accord sera respecté?
Bien sûr.
Parce qu'encore une fois, les États-Unis, eux, si vous voulez, les producteurs de pétrole de schiste américain ne se sentent menottés par aucun accord de l'OPEP. Donc si les cours remontent, ils relanceront la production. Et là, c'est le risque de voir de nouveau les prix, non pas s'effondrer, mais rebaisser.
On verra après l'impact. Mais simplement, déjà, Olivier Appert, qu'il va falloir nous rappeler, justement, suite à l'accord informel d'Alger d'il y a 2 mois, qu'est-ce qu'on demande aux différents pays producteurs à partir de demain? Est-ce qu'on leur souhaite leur fixer des quotas, souhaiter leur fixer une baisse de production, hein, ou leur faire arriver, leur faire baisser donc d'un certain nombre de barils par mois?
Le problème demain est encore plus important qu'il y a 2 mois, parce que entre-temps, la production au mois d'octobre a augmenté de façon significative, de l'ordre de 0,8 millions de barils jour. C'est-à-dire l'objectif qu'on se fixait de réduction de la production de 750 000 barils jour en gros. Maintenant, on parle plutôt de 1,3 ou 1,5 million de barils jour. Parce que la production a augmenté, que la consommation est quand même un petit peu faiblarde. Donc, le saut est encore plus important. Et ce qu'il faut, c'est une réduction de la production qui soit répartie entre les pays de l'OPEP et que les pays non-OPEP aussi interviennent.
L'Algérie, par exemple, l'Algérie proposait que les pays membres de l'OPEP baissent leur production d'1 100 000 barils jour. Et puis pour les autres, les pays non membres de l'OPEP, hein, Russie, Kazakhstan, Azerbaïdjan, et puis évidemment tous les autres, bien sûr, 600 000 barils par jour. Ça vous semble un bon ratio, un bon quota ou pas, quelque chose d'atteignable ou pas, Olivier Appert?
La difficulté, s'ils arrivent à un accord, c'est arriver à un accord qui soit crédible ni trop ni trop peu. Si c'est trop peu, à ce moment-là, de toute façon, ce sera un coup d'épée dans l'eau. Si c'est trop, à ce moment-là, les prix vont monter, mais ce sont les producteurs américains qui vont en profiter, qui vont se précipiter pour investir massivement, comme on l'a déjà constaté au mois de juin, lorsque les prix sont remontés à 50 dollars, et le nombre de rigs de forage aux États-Unis à réaugmenter de façon significative.
Un mot, Charles Tiemelé, puis on se retrouve dans un instant.
Non, je pense que ce qui est important au-delà de l'accord, et Mathieu l'a rappelé tout à l'heure, c'est qu'il faut qu'on tienne les pays de l'OPEP responsables de l'exécution de l'accord. Il faut aller au-delà des effets d'annonce. Parce qu'on va avoir un accord qui va satisfaire tout le monde, parce que tout le monde attend un accord, donc il arrivera certainement. Mais après, il faut le respecter. Et s'il ne le respecte pas, l'OPEP perd en crédibilité, déjà qu'ils perdent un peu la main quelque part sur le prix. Ils vont perdre en crédibilité et ensuite, on va se retrouver dans un monde où de moins en moins, les accords rendent l'importance. Et ça, c'est tout le monde va avoir les yeux sur eux à partir de demain.
Bon, on va retrouver Charles Tiemelé, associé fondateur de Damalex, un trader pétrolier spécialisé sur l'Afrique. Antoine Sfer, le directeur des Cahiers de l'Orient. Olivier Appert, conseiller du Centre Énergie de l'IFRI. Puis Mathieu Pecheberti, grand reporter à BFM Business. On verra justement dans un instant ce qu'il faut attendre ou pas de la Russie. Et quid évidemment des chances d'un accord trouvé demain à Vienne à la réunion de l'OPEP. Au fait, est-ce que l'OPEP a toujours la main ? Plus tellement apparemment. À tout de suite.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Oui, les décodeurs de l'écho à la veille de cette réunion très importante de l'OPEP à Vienne. Est-ce que les 14 membres du cartel vont réussir à se mettre d'accord pour limiter, voire abaisser la production de pétrole afin de faire remonter les cours? Et on l'a vu, donc, eh bien, les discussions sont assez vives pour des raisons géopolitiques, hein, et on nous l'a très bien expliqué, nos décodeurs de l'écho, notamment Antoine Sfer à la tête des Cahiers de l'Orient, président de l'Ileri, oui, 30 ans des Cahiers de l'Orient, avec notamment cette rivalité entre l'Iran, l'Arabie Saoudite, et puis évidemment dans la région, il y a l'Irak, il y a des pays affaiblis un petit peu plus loin comme la Libye. Et puis il y a la question aussi, évidemment, du grand absent. Bah oui, la Russie, premier producteur mondial qui ne fait pas partie de l'OPEP. Et on le voit, Olivier Appert, donc, il y a un contexte tendu entre les membres de l'OPEP, mais également entre les OPEP et les non-OPEP, avec apparemment la pression, hein, sur les épaules de Moscou, à tel point qu'on a vu, par exemple, le ministre algérien de l'énergie, le ministre vénézuélien également du pétrole, qui sont allés à Moscou pour dire aux Russes, s'il vous plaît, abaissez votre production. Qu'est-ce qu'ils répondent ?
Alors, la Russie a toujours été le passager clandestin de l'OPEP. Ils participent, ils assistent aux réunions, mais ils ne participent pas aux réunions, ils n'ont jamais participé.
Pourquoi ils n'ont jamais voulu y aller ?
Quel est leur intérêt ?
Je ne sais pas, je vous pose la question.
Aucun intérêt, c'est les autres qui font le boulot. Et ils en profitent. Donc c'est vraiment le passager clandestin de l'OPEP. Et il est intéressant de noter que... Alors, il y a le discours, c'est que la Russie participe aux discussions, mais apparemment, il n'envoie personne du ministère de l'Énergie demain à cette réunion. À côté de ça, Rouhani et Poutine, hier, ont fait une déclaration commune disant qu'ils apportent leur soutien aux mesures. Les Russes aussi ont laissé entendre qu'ils participeraient à un accord, si accord il y a. Ça veut dire qu'ils se réservent
ils
toutes
attendent
les
de
possibilités.
Voir. Voilà, tout simplement.
Et un spécialiste de la Russie, à qui je posais la question, me répondait avec cette sentence « Les Russes y participeront quand les écrevisses siffleront sur la montagne. »
Ah bon, d'accord, on risque d'attendre assez longtemps. Oui, on revient sur ce que vous nous disiez, Antoine Sfer. Oui, Rouhani et Poutine qui se sont vus, enfin en tout cas qui se sont parlé pour dire, bon, bah, très bien, une fois que la décision sera prise, on approuvera la décision du cartel.
Parce que aujourd'hui, l'Iran ne fait pas de cadeaux, mais en même temps a des intérêts objectifs avec la Russie, qui est précisément la Syrie et la Méditerranée orientale. À ce sujet, il ne faut pas oublier tout à l'heure, on parlait de stockage. L'Asie en a profité pour stocker. N'oublions pas que d'octobre 2014 à au moins mars 2015, on a vendu, le « on » étant un pronom personnel indéfini en français, on a vendu le pétrole syrien et irakien de Mossoul, de Deir ez-Zor, à la criée, c'est-à-dire à près de 20 à 25 dollars le baril. Qui dirigeait tout ça? Un certain chypriote israélien ou israélo-chypriote qu'on appelait le Cheikh Farid, et qui au moment où il s'est fait taper un peu sur les doigts, par les puissances, et notamment les États-Unis, s'est retiré complètement. Et c'est à ce moment-là qu'on a déclenché les offensives occidentales contre Mossoul, mais aussi contre des réseaux qu'on a bombardés en visant bien cette fois-ci les puits de pétrole de des réseaux notamment. Et ce qui fait que ça a tari, bien entendu, les finances, en quelque sorte, de l'État islamique.
Derezor, qui est une des villes du nord de la Syrie, voilà. Pas très loin de Raqqa, notamment.
Oui, et puis c'est à 8 km, 8 à 10 km de la frontière irakienne.
Irakienne, et puis un petit peu.
Irakienne, voilà. Donc aujourd'hui, il ne faut pas oublier ce passage-là, qui a aussi inondé la région, notamment par à un moment donné par la Turquie, ça passait par Ceyhan pour aller vers l'Europe et notamment vers l'Asie. Donc là aussi, il y a eu beaucoup de stockage qui a été fait.
Alors, incertitude donc sur la réunion de demain, on le voit donc au travers des négociations de ces derniers jours, de ces dernières semaines. Malgré tout, certains restent positifs. Optimiste, hein. C'est le premier ministre irakien donc qui donnait ce sentiment, l'un des premiers à être arrivé à Vienne hier.
Yes, I think we've agreed to cut production.
Oui, nous sommes d'accord pour réduire la production, car le niveau actuel des prix est inadéquat, ce n'est pas durable. Donc nous sommes prêts à réduire notre production de pétrole et d'autres devraient le faire aussi. Je pense que le niveau de production sera abaissé entre 900 000 et 1,2 million de barils jour, ce qui est suffisant pour faire remonter les prix. Nous sommes d'accord pour participer à ce mouvement.
Qui milite pour un tel accord? On a vu donc l'Arabie Saoudite, l'Iran, la Libye pour d'autres raisons, donc pour l'instant qui freinent des cas de fer, hein. Qui est pour cet accord? Ce sont les pays étranglés économiquement. Je pense au Venezuela notamment, Olivier Appert.
Je crois que tous les pays sont d'accord pour faire quelque chose. C'est leur intérêt, ouais. Car s'ils ne font rien, ils risquent d'être confrontés à une baisse des prix et se retrouver avec des prix de $30 par baril, comme on l'a connu en début d'année.
2016,
donc leur intérêt objectif, c'est effectivement d'arriver à un accord. Mais il faut se répartir la charge. Et puis, on est au Moyen-Orient.
Et alors, donc, conclusion, on est au Moyen-Orient, qu'est-ce que ça empêche de faire? les pays sont assez, rétifs à se répartir la charge. Conclusion d'Olivier Appert, on est au Moyen-Orient, ça veut dire que ça se passe pas comme ailleurs. Hein.
Mais il y a un adage dans le monde arabe qui dit très clairement, les Arabes se sont entendus pour ne pas s'entendre. C'est très clair, ça a toujours été ça depuis la fin des années 50. Et n'oublions pas quand même qu'aujourd'hui, ils sont non seulement le monde arabe est divisé, ça n'existe plus, c'est du Saint-Zanon du bonnet blanc. Les régions sont divisées elles-mêmes, Afrique du Nord, Proche-Orient, Moyen-Orient et Vallée du Nil. Et enfin, parce qu'on a oublié de dire que l'Égypte est producteur.
Oui, bien sûr.
L'Égypte ne fait pas partie de l'OPEP.
Non.
Maintenant, ce sont les pays qui sont divisés. Crise entre les Kurdes du Kurdistan irakien et du gouvernement de Bagdad, parce qu'on s'était entendu sur la part kurde de 17% de la production pétrolière. Maintenant, les Kurdes, avec Mossoul et Kirkouk, demandent un peu plus.
Olivier Appert.
Oui, juste un autre adage des traders de l'OPEP de Londres, bon. Qui disent l'OPEP, c'est comme un pot de thé. Ça donne du bon thé quand l'eau est très chaude, et force est de reconnaître que l'eau aujourd'hui est très chaude. Elle était chaude aussi à Alger et ça a donné une surprise. Elle était chaude en 98 où on s'est retrouvé avec des prix extrêmement bas. Donc comme l'OPEP is like a teapot, donc peut-être que demain ils réussiront quand même à atteindre un accord.
Sans doute, monsieur Berth, sans doute, mais peut-être aussi qu'ils ne réussiront pas à l'appliquer.
Ça, c'est le vrai problème.
Mathieu Pechberti, ensuite Charles Thiemele, associé fondateur de Damalex.
On voit bien que l'ensemble des analyses, c'est que même s'il y a un accord demain, qui est déjà extrêmement compliqué à construire entre ceux qui veulent gagner en production, ceux qui ne veulent que geler, et donc l'Arabie Saoudite qui devra baisser un petit peu sa production, la vraie question, c'est est-ce que cet accord tiendra? Auparavant, l'Arabie Saoudite décidé un peu seul, je schématise à outrance, mais c'était quand même un peu ça. Aujourd'hui, on est dans un marché extrêmement concurrentiel où le cartel, finalement, dans les faits, n'existe plus. Et s'il y a un accord, personne, aucun pays ne sera à l'abri d'un franc-tireur qui sortira de cet accord pour reprendre de la part de marché sur les autres. Je reparle des Américains une nouvelle fois. Antoine Serpel de l'Égypte, par exemple, je ne savais pas que c'était à ce point-là. Mais voilà, donc, et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est la question. Finalement, est-ce que l'OPEP existe encore ?
Oui, tout à fait. Charles Thiemelet, ce que dit Mathieu Pechberti est très juste. Hein. Imaginons un accord demain. On rappelle ce que disait tout de suite, il y a quelques minutes, Olivier Appert. Avec l'OPEP qui a pompé plus de brut que jamais au mois d'octobre. La production russe aussi qui a augmenté nécessairement ces dernières années. Et puis les membres de l'OPEP qui demandent certains à être exemptés de suivre cet accord. Finalement, ça va être la foire.
Non, il faut agir. Ouais. C'est clair qu'il faut agir parce qu'on a parlé beaucoup des producteurs, on n'a pas parlé des consommateurs, on n'a pas parlé de la Chine. Or aujourd'hui, un des éléments clés qui montre en fait la tendance à laquelle vers laquelle on va, c'est que la Chine vient, la Russie aujourd'hui est le premier importateur de pétrole en Chine, il vient de dépasser l'Arabie Saoudite. Donc on est sur un trend où les consommateurs vont dicter. Donc, les pays de l'OPEP ont encore la main sur leur production, donc sur ce que eux ils peuvent faire, mais le pool de consommation, donc Chine, Inde notamment, puis les États-Unis vont définir l'avenir. Et donc ça, c'est très important aussi de garder ça en tête. Donc il faut agir, il faut qu'il y ait un accord, parce que s'ils ne font rien et si les Arabes ne s'entendent pas, on va aller vers un monde où c'est hors de l'OPEP que tout va se décider.
Ouais, Mathieu,
c'est vrai qu'on a changé quand même de marché. On est passé quand même d'un marché d'offres à un marché de demandes. Vous voyez, par exemple, on n'en a pas encore parlé, le Brésil. Le Brésil a découvert ces dernières années des gisements potentiels, on ne les a pas encore
trouvés. En mer,
En mer, extrêmement important. Petrobras, première compagnie pétrolière brésilienne, s'est d'ailleurs alliée avec le français Total pour les aider à extraire ce pétrole. Je crois, enfin je parle sous votre contrôle, qu'ils peuvent extraire, ce qu'il se dit, ce pétrole à $20 le baril.
Tout à fait.
Donc si vous voulez, à $20 le baril, les Américains, eux, produisent du schiste aux alentours de 30. Hein. Donc on se retrouve de manière durable dans un marché bas. Alors est-ce qu'il sera à 20, 30 ou 40 ? En tout cas, moi,
ça veut dire qu'à terme, jusqu'où peuvent encore reculer les prix ? Donc, tiens, vous qui êtes sur les marchés pétroliers, le trading pétrolier, Charles Thiemelet.
Alors, les traders ne sont pas vraiment impactés par le niveau de prix. On arrive à travailler quel que soit le niveau de prix, et donc on évite en général de faire des projections. Mais dans les faits, vu les éléments qu'on voit, il y a beaucoup de pétrole qui est disponible en Amérique latine. Il y a encore beaucoup de découvertes qui vont être faites en Afrique. Quasiment tous les pays, on a parlé des 5 membres de l'OPEP, mais il y a aujourd'hui...
Oui, les 5 membres de l'OPEP africains, il y a l'Algérie, il y a
l'Angola,
il y a le Gabon, le Nigeria
et la Libye.
La Libye, bien sûr, évidemment, dont on parlait tout à l'heure.
Mais il y a aussi d'autres pays, le Congo, l'Égypte, on le rappelait. Il y a des pays qui aujourd'hui ont des réserves de pétrole. Ils n'ont pas encore réussi à les faire sortir, mais il y en a beaucoup. Donc il y a une réserve mondiale du pétrole disponible. Donc le prix peut baisser si rien n'est fait. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut qu'il y ait des actions.
La question que j'ai envie de poser aux techniciens que vous êtes, ce que dit M. Abadi, Premier ministre d'Irak, est-ce que c'est possible aujourd'hui de baisser de 900 000 à 1,3 million barils
par jour.
Oui, mais qui va baisser ? Parce que les déclarations qui ont été faites... L'Iran ne veut pas baisser. La Libye est exemptée. Le Nigeria est exempté. Le Venezuela, de toute façon, est dans une telle situation que l'Irak, la position de l'OPEP, c'était d'exempter l'Irak également. Qui va accepter de réduire effectivement sa production et la réduire de façon crédible, comme vous le disiez, autre que l'Arabie Saoudite
et l'Iran.
L'Iran a indiqué que de toute façon, pour eux, leur objectif, c'est de remonter à 4 millions de barils par jour. C'est non négociable. Et donc, ils considèrent, comme les Russes, que s'il y a un accord, ils applaudiront à cet accord. Est-ce que pour autant, ils accepteront de réduire leur production ? Rien n'est moins sûr. Et donc, on risque de se retrouver dans une situation où les seuls qui peuvent éventuellement réduire leur production, c'est l'Arabie Saoudite, et puis le Koweït et les Émirats. Mais enfin, ce sont les frères, les monarchies du Golfe. Et ça, c'est une situation qui me paraît inacceptable. acceptable. D'où la déclaration du ministre de Al-Faleh, le ministre du pétrole saoudien auquel vous faisiez allusion, qui est peut-être une anticipation, en disant une anticipation pour anticiper une anticipation d'un échec, en disant mais en fait c'est pas un échec parce qu'on n'a pas besoin de cette réduction de production.
Oui, mais pour que les marchés se régulent.
Il ne faut pas oublier aussi que entre l'Arabie Saoudite et les Émirats, le torchon ne brûle pas encore, mais il n'est pas loin de la flamme, dans la mesure où les Émirats arabes se sentent un peu trahis, puisqu'ils sont les seuls à être allés au Yémen, par solidarité avec l'Arabie Saoudite, sur le terrain, au sol. Ce que l'Arabie Saoudite n'a pas fait. L'Arabie Saoudite se contente de bombarder des civils, de bombarder des villes entières, mais pour le moment, les Émirats sont ceux qui payent, qui sont devenus un peu, pardonnez-moi le terme, l'expression, la chair à canon. Et ça, ils ont du mal à pardonner, et c'est pour ça qu'il y a une distance qui a été prise ces derniers mois, notamment, entre l'Arabie et les Émirats.
Et les pays africains, comment est-ce qu'ils se positionnent vis-à-vis de cette problématique? Alors, on le rappelait, il y a 5 pays africains qui font partie de l'OPEP. L'Afrique, c'est 9 millions de barils jour. Hein.
Alors, ils représentent à peu près 10% de la production mondiale. Ils sont très intéressés à ce que le prix remonte, mais malheureusement, ils n'ont pas les moyens de leur politique parce qu'ils ne disposent pas de réserves importantes. Or, au sein de l'OPEP, on voit au chapitre ceux qui ont des réserves importantes, notamment donc l'Arabie Saoudite et l'Iran. Donc, ils se retrouvent dans un dilemme où ils ont une volonté d'être liés à l'accord parce que ça permettrait d'avoir une augmentation des prix, mais malheureusement, leurs arguments et leur influence est limitée par le fait qu'ils n'ont pas de réserves et donc, pour beaucoup, et on l'a vu avec l'aller-retour du Gabon, la question se pose de savoir est-ce que ça a vraiment un sens pour des petits producteurs que sont les pays africains d'être membres de l'OPEP aujourd'hui?
Oui, et la réponse, à vos yeux, apparemment c'est non.
C'est non, parce qu'ils ont très peu d'influence, on le voit. Le Nigeria et l'Angola, qui sont les deux plus gros producteurs africains, qui sont tous autour de 2 millions barils jour, auraient un besoin énorme aujourd'hui pour leurs économies, pour la survie de leur pays, leurs économies, que le prix remonte. Et malgré les réunions, malgré leur participation, ont très peu d'impact sur le prix.
Alors l'OPEP a-t-elle encore la main? La réponse, vous l'avez donnée, non. Probablement l'histoire se fera peut-être en dehors de l'OPEP, d'autant plus qu'Olivier Appert, il y a un OPEP à l'intérieur, une OPEP à l'intérieur de l'OPEP. Hein. Il y a plusieurs pays en un, quoi, Pierre.
Il y a les pays, comme vous le disiez, les pays avec des réserves importantes et une population relativement limitée, qui sont plutôt en faveur de prix bas, qui permettent comme ça de maintenir la rente pétrolière durablement. Et puis au contraire, les pays qui ont des réserves courtes, mais des populations importantes, l'Algérie fait partie de ces pays-là, eux, ils ont intérêt à avoir des prix élevés tout de suite.
Mais même l'Iran a intérêt à avoir de la hausse des prix, parce que eux ont de vastes réserves, mais ils ont une population quand même importante, de 84 millions aujourd'hui, et donc ils ont, et 80% de cette population est urbanisée, donc on a besoin du pétrole, et ils ont besoin du pétrole, mais ils ont besoin aussi de ne pas être obligés, comme ils l'ont eu durant les derniers trucs, les dernières années, d'importer l'essence de l'étranger.
Juste, l'OPEP n'a plus de crédibilité, allez, un mot chacun. Mathieu Pecheberti, Charles Thiemele de Damalex. Mathieu ?
Écoutez, vraiment, je pense qu'en conclusion, on est vraiment en train d'assister à un changement total de paradigme, de monde qui sont en train de se croiser. Souvenez-vous, enfin moi, en 2008, on avait le baril à $140, on était en pleine crise financière, et 8 ans plus tard, le marché n'arrive toujours pas à se réguler seul. L'OPEP a de moins en moins de pouvoir. Il y a plus en plus de concurrents, et on est aujourd'hui sur un marché qui est devenu extrêmement concurrentiel, et ça va durer.
Chantier-Mêlé, le mot de la fin.
Les Anglo-Saxons disent actions speak louder than words. Je pense que l'OPEP aujourd'hui doit agir, mais doit agir de façon efficace pour garder sa crédibilité et son influence.
Bon, on verra ça demain, à suivre sur BFM Business, bien sûr, cette importante réunion de Vienne. Chantier-Mêlé, associé fondateur de Damalex, qui est un trader pétrolier spécialisé sur l'Afrique. Merci également à Olivier Appert, membre de l'Académie des technologies, conseiller au Centre Énergie de l'IFRI. Mathieu Pecheberti, grand reporter à BFM Business. Et puis un joyeux anniversaire à Antoine Serre pour les 30 ans des Cahiers de l'Orient, qu'il dirige toujours avec beaucoup de talent. C'est toujours bien intéressant. C'est fini pour les décodeurs de l'écho.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.